Je suis montée de deux rangs.
Je t'ai pas vu.
Bah non, parce que j'ai pas.
Caline,
la thune, il pense que c'est pareil.
Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que ça nous démerde.
Moi, je crois que tu peux en trouver à 50 euros. Voilà. Voilà. Mais il faut en parler.
Alors, on va tenter l'exercice difficile de vous faire des restitutions par mots-clés en 2 minutes chrono. Petite phrase, allez. Jusqu'à 3-4 mots dans la même phrase. On commence par. Alors, qu'est-ce qui est prêt? Alors, je croyais que vous étiez bien prêts dans le retour.
Donc, moi, je vais vous redire, enfin, essayer de résumer tout ce qui a été dit dans l'atelier qui parlait de la mobilisation et de l'implication des habitants et des bénévoles dans les projets jardins. Donc, il est ressorti trois grandes choses. La première, c'est qu'il y a une concertation qui est nécessaire et qui est même indispensable pour assurer la légitimité du jardin. Donc, une concertation avant que le jardin soit mis en place. Et puis aussi pour que les personnes qui sont dans le jardin soient vraiment motivées. Comme ça, on teste un petit peu la motivation des gens. Voilà, donc la concertation avant la mise en place du jardin. Une autre chose aussi, une fois que le jardin est en place, les réunions qui doivent être régulières et qui doivent être formelles pour que chacun ait un rôle et que le jardin puisse avancer, puisse s'organiser. Et puis, on a parlé aussi des règles de fonctionnement qui sont indispensables. Donc, tout ça pour assurer la pérennité du jardin. Ensuite, un aspect qui est prépondérant, c'est le côté festif. Dans tous les groupes, j'ai entendu, il faut faire des fêtes, il faut faire des fêtes, il faut faire des fêtes. Donc faisons la fête. Et puis on a parlé du vandalisme. On a parlé du vandalisme et le vandalisme, on est arrivé à la conclusion que c'était un petit peu comme le mauvais temps ou comme la sécheresse, ça faisait partie du jardin. Et donc qu'il fallait faire avec. Et qu'il fallait qu'un jardin pouvait... manquer une courgette, ben, c'est pas grave, on replante un autre plant de courgette. Ça fait partie du jardin. Voilà pour ce qui est de cet atelier-là.
dans l'atelier où on a parlé beaucoup de la pollution, l'importance de la biodiversité et des techniques. Alors, qu'est-ce qui en ressort? On a dit, finalement, on a beaucoup parlé de la pollution et de l'impact de la pollution, des conséquences sur l'alimentation. On s'est rendu compte que les jardins sont finalement des micro-laboratoires qui sont en train de rendre leurs résultats, en quelque sorte, de nous renvoyer l'impact que la société, le développement de la société a eu sur notre environnement général. Pas uniquement les jardins, mais l'environnement en général. Donc les jardins sont comme des reflets, des retours que nous renvoie leur état. Et donc cette prise de conscience, elle a un impact sur l'alimentation, certainement, mais on se demande comment éviter que ce soit une prise de conscience angoissante, mais la transformer en un levier pour amplifier ce que les jardins font bien déjà, et pour amplifier la transmission des connaissances sur l'environnement, sur les plantations, sur les techniques de jardinage, amplifier aussi la visibilité, donc le rôle du jardin qu'il a à diffuser ses connaissances, pas uniquement au sein des jardiniers, mais aussi au sein de la société. Donc l'importance d'ouvrir encore plus ces jardins, pas uniquement aux jardiniers, mais à tout le monde, pour que effectivement les résultats de ces micro-laboratoires soient connus de tout le monde. La pollution qui se retrouve dans les jardins, c'est le résultat de l'ensemble de la société, et pas uniquement des jardiniers. Il faut aussi relativiser cette pollution. C'est pas tout d'un coup que la pollution arrive dans ces jardins, c'est un continuum finalement. On vit dans ces villes, on respire l'air depuis 10, 20, 30 ans, 60 ans, on est là, et c'est pas parce qu'on mange les légumes que forcément tout d'un coup il se passe quelque chose, donc il faut aussi prendre un peu de distance par rapport à ça. On s'est dit ces choses-là. Voilà. Donc, c'est un débat qui. Cette prise de conscience, elle va s'amplifier et lancer beaucoup de questions qui doivent continuer au sein de chaque jardin.
Est-ce que j'ai le droit de dire que c'est toi qui avais l'idée de faire un retour en deux mots-clés?
Est-ce que.
Alors, moi non plus, j'arrivais pas en deux mots-clés. La thématique, c'était sur le foncier et le paysage. Donc, on a d'abord ouvert le débat en disant qu'il y avait peut-être deux sortes de problématiques. Une qui concernait les villes denses, où le foncier se trouvait vraiment en concurrence d'usage avec d'autres usages pour la ville, tels que le logement, etc. Et peut-être la périphérie, les zones périurbaines, où il y avait plus une concurrence avec peut-être le secteur agricole. Ça a été l'ouverture du débat. Finalement, au terme, on est arrivé au constat qu'à travers nos jardins, on participe à la construction de l'architecture de la ville de demain, et où chacun peut s'y impliquer dans la construction des règles d'urbanisme. Et on s'est dit ce qui était important, c'était d'avoir un droit d'accès à la terre, tel qu'on a un droit sur l'eau, d'avoir de l'eau, qui c'est pas un droit de propriété, c'est un droit, l'eau est un accès, est indispensable pour tout le monde, et la terre également. Et donc du coup, l'idée de, à travers ce droit à la terre, c'est le droit à la santé à travers le jardin, à la poésie du jardin dans la ville, à un bien-être physique et mental, et également à une spontanéité et la possibilité d'investir les délaissés. Il y a eu tout un petit paragraphe sur est-ce qu'on inscrit les jardins dans les plans locaux d'urbanisme, et c'était revenu, oui, mais ça voulait dire figer les choses, figer les jardins. Or, les jardins, ils sont nés parce qu'il y avait des espaces qui n'étaient pas préaffectés. Et donc ça, c'est important de le garder. Donc dans l'aspect foncier, c'est pas définir l'usage de tous les espaces. Et du coup, ça permet aux gens de devenir acteurs de leur espace. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait introduire de nouveaux droits d'usage, au-delà de l'espace public, le droit de propriété privée, etc., mais plutôt de l'usage du foncier dans la ville et ailleurs, tels que les communaux, ces espaces qui appartenaient à toute une communauté dans les espaces ruraux, et du coup des droits qui seraient liés à l'environnement, des droits liés à la lutte contre le réchauffement climatique, avec pourquoi pas proposer des pourcentages automatiques affectés en ville à des îlots de fraîcheur qui seraient autogérés.
Je prends le relais parce qu'en fait, nous, ça va directement dans la continuité de ce que tu viens d'exprimer. Moi, j'animais l'atelier frein et levier pour le développement d'un projet de jardin partagé. Les discussions ont beaucoup tourné autour de du partenariat, en fait, de la formalisation du partenariat autour du lieu qu'on investit. Donc, on a parlé de la convention de mise à disposition de l'espace entre les utilisateurs d'un site et les propriétaires de ce site. Est-ce que c'est la commune? Est-ce que c'est un bailleur social? Est-ce que c'est un propriétaire privé, etc., etc. Donc, ça, c'était très important. La convention de mise à disposition, quels sont les outils qui permettent d'entamer une relation qui soit basée sur des échanges sains, quoi, en fait, dès le départ, le plus clair possible. Ça ne veut pas dire enfermer avec la formalisation d'un contrat, c'est-à-dire mettre les choses au clair pour qu'il n'y ait pas de problème de responsabilité par la suite, quoi. Parce qu'à mon avis, on ne peut pas travailler avec des habitants si on ne peut pas leur faire prendre trop de risques. Bon, enfin. La notion de temps, elle était très importante par rapport aux freins et leviers. Elle peut être un atout comme elle peut être un frein. Cette notion de temps, on a vu qu'elle n'était pas du tout la même pour les aménageurs, c'est-à-dire les urbanistes, les gens qui vont prendre des décisions dans des services, etc., et les habitants. Donc cette notion de temps, elle est à relativiser. Quand on a des interstices qui sont des dents creuses, donc des espaces délaissés dans la ville, on sait qu'on a un temps pour pouvoir les investir. Et de là, les freins et leviers, c'est dans la pérennisation du projet, on n'est pas obligé de dire dès le départ voilà, que ça va être toujours comme ça. C'est pour ça qu'il y a le concept de jardin nomade peut-être, qui est apparu, des jardins qui peuvent se déplacer. Et moi, j'ai insisté aussi sur le fait que lorsque le groupe existe, le jardin peut disparaître et réapparaître. C'est un peu de la magie. Mais si le groupe existe, en fait, la dynamique, elle est là. On a vu qu'il y avait des outils démocratiques à disposition des porteurs de projets pour répondre à leurs questions. C'est le conseil de quartier, le comité de quartier. Ça peut être au niveau de la commune, on m'a parlé du plan de développement aussi, il y a des choses. Je pense qu'il y a des instances, en fait, où on peut exposer ces projets en étant entendu. L'avis du groupe, du collectif, il ne faut pas que ça soit un frein. Quel est le but de départ? Il ne faut jamais le perdre de vue, sinon ça peut devenir un frein. J'ai presque fini. Conserver, ça c'est très très important, c'est conserver le principe d'ouverture, ça reprend ce qu'a dit Béa, du lieu comme du groupe. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un fonctionnement de groupe qui est arrêté, mais qui peut évoluer dans le temps. Faire accompagner techniquement le groupe, communiquer sur des exemples réussis et laisser sa place à la spontanéité, même si cela glisse sur l'espace public.
Chose, hein, même remarque, bon, c'est vrai qu'en deux mots-clés ou en une phrase, c'est un peu difficile. On arrive sur le jardin comme vecteur de lien social. Alors nous, on a eu une première question qui a été posée, c'est à quelles conditions le jardin est-il vecteur de lien social ou est-il convivial? Donc la convivialité était au centre des discussions, avec des premières remarques sur l'organisation notamment de repas. On a beaucoup parlé de la cuisine et du repas à l'issue de la culture, qui était pour la plupart des participants vecteur de convivialité. Alors il y a eu un consensus donc sur un certain nombre de choses qui permettent de créer ce lien. Donc d'abord il y a eu prendre le temps, être patient, enfin, prendre le temps en général, pour aller à la rencontre de l'autre. La diversité, l'idée que la diversité faisait la richesse de ces jardins, donc cette idée aussi de garder le jardin ouvert, enfin, de garder une ouverture en tout cas pour des publics qui a priori seraient partants pour une expérience de jardinage, et puis pour tous les autres, tous ceux
eh ben, a priori ne sont pas intéressés ou ne connaissent pas les possibilités qui se présentent. Donc on était tous d'accord sur le fait que le lien social, c'est peut-être le ciment des projets de jardins partagés. Ça cristallise quelque part une forme de cohésion. Mais à la fois, même si on est d'accord sur ces points-là, il apparaît aussi que parfois c'est difficile de créer du lien. C'est difficile de mixer un peu autant de personnalités et de cultures qui peuvent se rencontrer sur les jardins partagés. Et que quelque part, le lien social, c'était aussi un peu une utopie pour certains. Donc voilà, à voir ce qu'on peut mettre en place pour que ça change. Et du coup, on a beaucoup parlé de freins, de difficultés, de choses qui ne sont pas toujours faciles à concilier, du fait de devoir laisser des portes ouvertes justement pour que le jardin vive et évolue. On partait en fait sur le fait que le lien social se crée sur des valeurs communes, et entre autres, on l'a vu avec l'étude du cabinet Argo sur le plaisir de jardiner, souvent. Mais que parfois ça suffisait pas. Ce qui est apparu comme solution à un certain nombre de difficultés, c'était en amont de travailler sur un projet commun, en tolérant aussi le fait qu'il évolue, ce projet, et que le jardin n'est pas quelque chose de fixe et de figé. Laisser encore une fois des ouvertures. Le fait aussi de devoir mobiliser, c'était l'idée un petit peu de fin, mobiliser en dehors du jardin. Alors ça veut dire mobiliser en amont du projet, pendant et pour permettre que le jardin puisse être pérenne. Je vais conclure. Je vais conclure justement sur cette phrase qu'on a eue à la toute fin. Le fait de... On se disait que ce serait... que c'est possible, on voit qu'il y a plein d'exemples où c'est possible, d'aller à la rencontre de publics, entre guillemets, improbables. C'est-à-dire que des gens, justement, qui ne viendraient pas spontanément au jardin, on se rend compte que par l'expérience, ou de voir jardiner, ou de voir les autres faire... c'est ça qui crée du lien aussi, et même avec les personnes qui ne font pas partie de ces jardins partagés, et de tout l'entourage, en fait, travailler justement avec l'environnement du jardin et tous ces gens qui sont autour de nous aussi. Voilà, je te laisse là.
Merci. Vous avez le droit de me tacler aussi si je dépasse trop. Alors, on était sur une thématique très liée, puisqu'on parlait de mixité. Et donc, à travers toutes les grandes thématiques de la mixité, on a principalement parlé de la mixité sociale, voire culturelle, sans prendre le temps de décrypter vraiment ce qu'il y avait entre les deux, et de mixité par rapport au handicap. Donc, par rapport aux questions de mixité sociale, on a parlé de la liberté du choix entre les parcelles collectives ou les parcelles individuelles sur un même jardin, qui permettait de mobiliser une population plus mixte. On a aussi beaucoup parlé de la difficulté à impliquer des personnes qui n'étaient pas à l'origine du projet, principalement quand c'est des personnes en fragilité. Donc la nécessité d'impliquer les personnes dès le début, avec une diversité de publics représentés. On a beaucoup insisté sur la notion d'accompagnement, de lien, de personnes référentes, d'impliquer des équipes encadrantes de structures sociales. On a décrypté aussi la question qui est de dire vouloir... intégrer des publics, enfin de vouloir travailler et faire venir des personnes handicapées sur le jardin, c'est pas forcément, ça signifie pas forcément construire des bacs surélevés. C'est-à-dire qu'il y a, ça nécessite de travailler avec des publics différents, nécessite de mieux connaître les publics avec lesquels on veut jardiner, parce que il faut sortir un petit peu des stéréotypes handicapé égale bac surélevé. On a parlé enfin de la question de comment faire collaborer des gens qui ne s'aiment pas, tout simplement, sur des histoires d'origine ou de conditions sociales, des gens qui a priori ont des préjugés sur d'autres publics et qui du coup ont du mal à travailler avec toute une catégorie de gens qu'ils n'aiment pas. Et on a conclu sur l'insistance sur la nécessité d'une charte. Alors, j'ai envie d'ajouter avec les questionnements que ça pose sur justement comment la charte ne restreint pas le collectif de jardiniers. Voilà. J'espère qu'on a bien résumé les choses. J'espère que tout ce qui... Alors, je repasse la parole à Catherine.
Merci. Merci à ces ateliers. Vous avez vraiment senti des choses chouettes. Alors, il y a deux synthèses. Une première synthèse par Clotilde, de ce que vous avez sorti dans les ateliers, et après une synthèse par Liliane de la journée.
Je vais me présenter puisque j'étais pas là ce matin. Donc, je suis Clotilde Vielle, je suis bénévole au Passe-Jardin depuis sa création. C'est pour ça que je me lance dans cette synthèse à chaud et pas très facile, parce que ça fait longtemps que je baigne dans ce potage-là, et donc je vais essayer de vous dire comme ça à chaud ce que ça m'a évoqué. D'abord, je voudrais reprendre un peu les conclusions de l'atelier sur le foncier pour rappeler une chose qui nous rassemble tous, cette histoire de droit à l'accès à la terre. Ça, vraiment, c'est quelque chose de très, très fondamental, de très, très important. Et c'est là-dessus, en fait, c'est notre base, c'est là-dessus qu'on s'appuie. Hein. C'est cet accès à la terre qui nous nourrit, qui nous fait vivre, et cette terre à laquelle on doit rendre ce qu'elle nous donne. Hein. Donc, c'est tout ce principe écologique donc repose là-dessus. Donc, une fois qu'on a posé ça, je dirais que ce que j'ai ressenti en transversal de ces six ateliers, d'abord qui était, j'ai trouvé particulièrement riche et intéressant, avec pas trop de choses dites, mais vraiment bien ciblées. Ce qui est ressorti pour moi, c'est l'idée de l'ouverture. Chaque atelier a vraiment dit « il ne faut pas s'enfermer ». Alors, je reprends par exemple l'atelier sur les techniques et la pollution. Ben voilà, on constate qu'il y a une pollution, ben alors on va s'en servir, on va aller plus loin avec ça. On ne va pas s'enfermer dans la peur, on ne va pas se dire ben maintenant c'est foutu, on ne peut plus rien faire. On va faire quelque chose avec ça, on va avancer. Ce qui est mixité sociale aussi, bien entendu, hein, c'est l'ouverture, prendre la peine de s'ouvrir à celui qui est différent, même si c'est difficile. Même chose avec le lien social. Le lien social, on en parle beaucoup, on y aspire, et puis quand on le pratique, on s'aperçoit que, mon Dieu, c'est pas tous les jours la fête quand même. Donc, ça nous demande aussi bah, de voir qui est l'autre, quels sont ses besoins, et toujours aller de l'avant, de faire des difficultés, un challenge pour aller plus loin. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé d'intéressant dans ces ateliers, c'est toujours cette envie d'aller plus loin et de dépasser la difficulté. Sur les freins et accélérateurs, laisser sa place à la spontanéité, même chose. Et conserver, alors j'arrive pas à relire mes notes, hein, l'ouverture du lieu comme du groupe. Donc encore cette idée d'ouverture. Il y avait aussi dans un des derniers ateliers aller à la recherche d'un public improbable. Voilà, je crois que je resterai là-dessus. Toutes ces réflexions, en fait, me semblent très convergentes. Et c'est vraiment... intéressant de voir qu'en ayant réfléchi chacun dans son coin, et bien finalement on arrive à quelque chose de très harmonieux. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort de cette journée, de ce groupe. L'harmonie, l'énergie circule ici. Merci à vous.
Je vais passer la parole à Liliane. Tu viens...
Euh,
Cette fin de journée, c'était quand même le but de faire la transition entre ces assises nomades régionales et les assises régionales qui auront lieu au printemps, enfin, avant l'été. Donc moi, mon filtre d'analyse a été par rapport aux deux mots-clés qui étaient utopie et aussi la petite phrase, les petites utopies qui ne demandent qu'à éclore. Donc moi, je me suis fixée à travers ce filtrage d'une écoute sur qu'est-ce qui pourrait être restitué comme constat au régional. Pour cette journée, moi, je trouve particulièrement significatif le fait que, alors moi, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on les a donnés ce matin. Il y a eu des gens qui sont venus en plus. Quand même, il faut constater qu'il y a eu quand même, alors les chiffres ne sont pas exacts, autour de plus de 30 jardins, on va dire, hein, parce que je n'ai pas les chiffres exacts, 16 communautés, collectivités territoriales, et puis quand même 6 élus, 7 associations et 17 personnes individuelles. Je trouve que c'est quand même bien représentatif de ce qui se passe dans un territoire qui, à l'intérieur de ce territoire, il y a effectivement des élus, des acteurs directement concernés par les jardins partagés, et puis quelque chose qu'on pourrait appeler la société civile. Et j'ai retenu quand même ce matin quelque chose qui était intéressant, c'est que pour que ça bouge, il faut effectivement qu'il y ait une masse critique, c'est-à-dire qu'il y ait effectivement un nombre suffisamment de structures organisées ensemble pour que ça soit mobilisateur. Alors, pour en venir à la notion d'utopie, je pense que ce qui est le plus important, c'est de constater que ce sont des utopies concrètes. Alors, c'est peut-être un mot contradictoire, mais on a remarqué que c'était des expériences, des micro-expériences, des micro-laboratoires, et qui sont tous aussi différents. C'est quand même intéressant parce que vous connaissez le mot utopie au sens large. Et souvent, il a mauvaise presse dans la mesure où on se dit une utopie, si elle est tellement bonne, il n'y aura plus de changement et ça pourrait devenir totalitaire. Or, ce qui caractérise les petites utopies, c'est qu'elles sont petites et toutes différentes. Et donc, on n'est plus du tout dans cette situation d'une mainmise, je dirais, d'un modèle unique et totalitaire, mais au contraire, plein de créativité et, pour revenir, de diversité. Ensuite, la notion d'utopie, elle a réapparu aussi quand on a dit que c'était au fond un travail de mise en reflet, de mise en miroir entre ce qui est possible et ce qui est réalisable. Et la mise en abîme enfin, de deux choses, c'est la société que l'on voudrait modifier, ça donne en reflet tout ce qu'on ne voudrait pas, donc moi, j'ai entendu aussi deux mots qui se cognaient, c'était le mot individualisme et partage et convivialité. Donc, on a là donc, la face, le recto, le verso de la même chose, de cette mise en abîme de deux reflets. Alors, ensuite, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est comment ces petites utopies vont pouvoir éclore. Alors, bon, on a un territoire, on a entendu quand même qu'il faudrait quand même que dans ce territoire, il y ait plusieurs composants. Déjà, une volonté politique. On a vu ce matin, par l'intervention du maire de Grigny, comment dans un territoire donné, une volonté politique peut être tout à fait mobilisatrice. Mais on a quand même entendu aussi un bémol quand un élu de Givors nous a expliqué que dans certains cas, il y a des difficultés d'entraîner un changement de mentalité quand on a des problèmes, je dirais, de rupture culturelle au niveau des représentations, des pratiques. Et moi, ce que j'ai entendu d'intéressant dans les dernières présentations, c'est justement ce public improbable. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir ces médiateurs qui sont militants, qui ont envie de proposer de nouveaux modèles de société, il ne suffit pas d'avoir de la passion. Il faut aussi qu'il soit le porte-parole de ce public improbable. Donc, c'est la chose que j'avais retenue. Enfin, il y a une chose aussi qui m'a frappée. C'est de la même manière que les mots individualisme, égoïsme sont apparus souvent, tout d'un coup, il y a eu une activité, on va dire, qui, dans un premier regard, pourrait être une activité peut-être banale, et qui revient tout le temps. Et je me suis posé la question, mais quelle serait la fonction de cette chose qui devient le point focal de ce que serait un jardin partagé? Eh bien, c'est le compostage. Alors, ça paraît très pragmatique, mais finalement, ça revient à ce que vient de dire Cécile. Qu'est-ce que c'est que le compostage, sinon de rendre à la terre ce qu'elle a donné? Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de finir cette journée, en vous invitant évidemment à participer aux assises régionales qui auront lieu au printemps. Et je vous remercie.
Président, voici le deuxième co-président, présidente, Cécile.
Merci. Je pensais qu'il n'est pas là aujourd'hui, mais
voilà.
Il sera là pour l'ISER, je crois. Donc moi, j'ai la partie finalement plus facile que de faire celle des synthèses, c'est de faire celle des remerciements. Donc, il est de coutume de remercier les élus en premier, et puis je crois que Liliane a bien insisté, vous avez bien dit tout l'intérêt qu'on a à faire valoir nos jardins partagés auprès des élus. Premier remerciement donc au maire de Grigny qui nous a accueillis ici, ne serait-ce que pour ce local, ces salles où on a pu aller d'un côté, de l'autre, se dégourdir les jambes, aller en petit groupe, en grand groupe, et passer la journée ici. Remercie aussi, et on avait insisté là-dessus, pour que ça ne se fasse pas à Lyon, forcément, parce que, d'accord, c'est les assises nomades Rhône-Loire. Le Page Jardin, c'est la région. C'est vraiment l'échelle régionale, et donc, on sait qu'on nous le reproche, mais on essaye de plus en plus d'être, pas lyonnais-lyonnais, mais de bien... être sur l'ensemble de la région, et donc c'est important de ne pas être à Lyon, de ne pas être trop loin non plus, parce qu'une bonne partie des jardins lyonnais sont là aujourd'hui. Voilà, donc Grigny, encore une fois, merci. On remercie aussi Françoise Rivoire, qui est donc l'élue à la ville de Lyon sur l'économie sociale et solidaire des jardins, qui est d'une grande aide, notamment financière, pour les jardins partagés de Lyon, et les assises. Frédéric Faure, donc le maire de Lantilly, dont on a vu, l'adjoint de Lantilly, pardon, dont on a vu qu'il était, je repensais au film justement, donc avec la création d'un premier jardin, mais qui nous a dit que peut-être il n'était pas vraiment opposé à ce qu'il y en ait d'autres. Jean-Noël Récicot, Lyon deuxième, qui rêvait d'une parcelle aussi grande que celle de Lantilly, mais dont j'espère qu'il repartira avec plein d'autres idées pour comprendre que même si on a moins de 500 mètres carrés et qu'on a ce que l'étude d'Argos a dit, un petit jardin en ville, ça peut être un très grand jardin, et que dans le deuxième, ça serait dans Lyon deuxième où il n'y a pas beaucoup de jardins, ça serait vraiment déjà bien. Remerciements donc à Roger Fréty, qui avait d'autres qui nous a présenté aussi d'autres soucis dont a déjà parlé Liliane. Est-ce que j'ai mis des élus? Il y en a d'autres qui se sont
ah voilà
que j'ai oublié. C'est Marie de Beaumont qui représente Saint-Étienne Métropole.
Ah ben en plus donc encore plus pour la Loire, donc très bien, excusez-moi. Et donc les remerciements vont bien entendu à toutes les associations de jardins partagés, tous les participants, et notamment lors du buffet, j'ai entendu certains qui se nommaient les curieux et les curieuses, qui ne connaissaient pas forcément les jardins partagés, mais c'est aussi pour ça que sont faites les assises. C'est pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui ont entendu parler d'eux, ou pour qui commencent à croiser, et ça germe petit à petit. Donc, voilà. Et puis, bien entendu, je remercie toute l'équipe et les bénévoles du Page Jardin pour avoir préparé cette journée et pour nous avoir organisé tous ces ateliers toute la journée. Donc, et le comité de pilotage des assises. Un grand merci à vous. Merci.
Et maintenant, on va arroser ça. Hein. Donc, on vous invite au pot de l'amitié. Et donc, on vous propose de dégoûter. De goûter. Les spécialités lyonnaises. Donc, on vous a préparé la salade de canut et de la rosette de Lyon. Ouais, voilà. À goûter. Ouais. Donc, on se retrouve au repas dans votre.